voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Jacqueline de Romilly, qui a été la première femme membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1975, a été élue à l'Académie française le 24 novembre 1988 au fauteuil numéro 7, précédemment occupé par André Roussin. Comme il est d'usage, c'est seulement un an après qu'elle fut reçue solennellement sous la coupole, le 26 octobre 1989. Ce jour-là, elle prononça l'éloge de son prédécesseur et c'est Alain Perfitte qui l'accueillit par un discours dont vous allez entendre maintenant la lecture. Alain Perfitte a commencé ce discours par une citation de Thucydide. « Tout ce que l'on peut souhaiter aux femmes, c'est que l'on parle d'elles le moins possible », insistant sur le fait que depuis les Grecs, la situation avait heureusement bien évolué. Il a également souligné que si Jacqueline de Romilly entrait à l'Académie française après Marguerite Yourcenar, elle ne serait pas la seconde femme de la compagnie, mais bien la deuxième, c'est-à-dire que d'autres femmes seraient élues après elle. Et en effet, Hélène Carrère d'Encausse, Florence Delay et Assia Djebbar mettent au nombre de 5 les femmes de l'Académie française. Écoutez maintenant, relu par le comédien Fernand Guillot, le discours prononcé par Alain Perfitte, lequel, rappelons-le, avait été élu en 1977 au fauteuil de Paul Morand.
Votre histoire commence en conte de fées, des fées universitaires. Il était une fois un jeune philosophe plein de talent, normalien, cacique de l'agrégation, Maxime David. Disciple de 2 autres normaliens, Durkheim et Lévi-Bruhl, camarade à la rue d'Ulm de Marc Bloch et de Marcel Granet, amateur et traducteur de penseurs allemands et anglais, musicien de surcroît, sachant par cœur Péléas et Mélisande. Il fit la connaissance de Jeanne Malvoisin au cours de Bergson au Collège de France. Rencontre prémonitoire, puisque le fruit de leurs amours devait enseigner plus tard dans cette même salle numéro 8 et y provoquer autant d'affluence que Bergson lui-même. Mais la réalité n'est jamais lisse à ce point. Leurs fiançailles durent être conquises sur des parents déconcertés. Une famille était juive, l'autre ne l'était pas. Un seul petit traitement de professeur en perspective, cela n'était pas raisonnable. Pourtant, la jeunesse et l'amour surent tout emporté. Les bonnes fées furent les plus fortes. Jeunes mariés, vos parents menèrent en Avignon, puis à Chartres, une vie pleine de fantaisie et de tendresse. Votre père professait, votre mère écrivait des contes de fées, justement. Elle faisait sa vie comme elle l'avait rêvé. Août 1914, brisa ce rêve où vous veniez à peine d'entrer. Fin septembre, Maxime David adressait à votre mère un télégramme que 50 ans plus tard, vous retrouverez dans son sac à main. Je pars très content, t'inquiète nullement. L'inquiétude n'a cessé que pour faire place à la douleur. Maxime David est tombé dans les dernières heures de la bataille de la Marne, après Charles Péguy qui était tombé dans les premières. Il a été tué à la tête d'une section de paysans, comme la plupart de ses camarades de promotion et des promotions voisines, jeunes esprits portant en eux tout le passé de notre culture et une part de son avenir. À cet holocauste de l'intelligence française, il faut joindre le souvenir d'une décimation familiale. Des 3 frères David, 2 ont été fauchés, ainsi que le frère de votre mère. Celle-ci reste seule. Seule avec vous, petit rejeton de l'espérance, l'amour, le plaisir de vivre, l'appétit de connaître et de communiquer, lui ont offert ce nourrisson. Elle n'envisage pas un instant de l'élever autrement que par et pour toutes ses joies. Elle a voulu faire de cette pupille de la nation une enfant heureuse. Vous fûtes cette enfant heureuse. Votre mère revint à Paris portée par son goût de la lutte. Elle renoua les liens ténus que, dès avant-guerre, elle avait établis avec le monde littéraire. Ses contes et nouvelles parurent dans des revues, suivies plus tard de romans, de pièces de théâtre, d'adaptations radiophoniques. Elle ne s'avouait jamais vaincue. Vous assurez qu'elle n'était pas assez rationnelle pour cela. À travers elle, vous devinez tout un monde du théâtre et de la musique dans lequel vous ne vous êtes jamais vraiment aventuré. Cette figure qui tient dans votre cœur une place si essentielle, nous n'avons aucun mal à l'imaginer. Il suffit de vous regarder vivre. Toute son énergie se retrouvera en vous avec le besoin d'aller jusqu'au bout et même un peu au-delà. Cet acharnement à bien faire, vous le mettez autant dans la préparation d'un article que dans la réussite d'un plat cuisiné. Quand vous lisez un roman, vous contentez-vous de le lire, nullement. Votre crayon court en marge du volume, comme s'il s'agissait de préparer une communication pour un colloque savant. Heureuse petite fille, heureuse jeune fille, studieuse aussi. Déjà entre études et bonheur, vous ne faites pas bien la différence. Au lycée Molière, vous recevez le prix d'excellence de classe en classe, avec cette décourageante régularité qui ne laisse aux concurrents que la bagarre pour les seconds rôles. Quand vous échangez une correspondance d'adolescente avec une jeune amie, c'est sur Port-Royal de Sainte-Beuve, vous ne boudez pas pour autant le sapeur Camembert. Même aujourd'hui, vos bécassines sont chez vous à portée de la main. Vous aviez au lycée l'étonnante particularité d'étudier le grec. Pendant les années 20, le grec n'a pas sa place dans une éducation de jeune fille, trop intellectuelle. À Molière, lycée prédestiné pour qu'on s'y moquât des femmes savantes, vos deux professeurs de latin et de grec étaient les seuls mâles, tels deux loups dans une bergerie. Ils eurent l'idée bizarre de vous présenter au concours général. C'était la première année où les filles pouvaient entrer en compétition avec les garçons. Premier prix de version latine, Jacqueline David. Second prix de version grecque, Jacqueline David. Dès que la nouvelle fut connue, la presse, Pierre Lazareff en tête, s'empara de vous. C'était la première fois. Ce ne sera pas la dernière. On vous félicite dans toutes les langues, à New York, Barcelone, Vienne, Genève, Bruxelles. La collection de coupures jaunies que votre mère conservera pieusement est bien instructive. Certains journalistes proclament une nouvelle victoire du féminisme. Mais la plupart, qui en sont encore au temps de Molière, pour ne pas dire à celui de Thucydide, redoutent, c'était inévitable, que vous ne deveniez une femme savante, voire une précieuse ridicule, en tout cas un mauvais exemple. Est-ce pour préserver votre image de ce soupçon monstrueux? D'autres s'ingénient à corriger cette impression en ne présentant de vous que des photographies où l'on vous voit adossé à un piano ou mieux encore une casserole à la main. Bas bleu peut-être, mais rassurez-vous, bonnes gens, cordon bleu aussi. Pour vous, juillet 1930 est donc glorieux. Vous recevez vos prix des mains du président Doumergue. Il ne dit pas « Ah, pour l'amour du grec, souffrez que je l'embrasse ». Il vous donne une vigoureuse poignée de main. En ce temps-là, on ne s'embrassait pas autant qu'aujourd'hui. Vous aimez à dire « on arrive au fur et à mesure ». Les choses deviennent possibles parce que chaque étape franchie rend elle-même possible l'étape suivante. Quand on vous félicite d'avoir été une pionnière, vous répliquez que vous avez été une profiteuse puisque vous étiez de la bonne génération. De la cagne de Louis le Grand, que venaient justement de quitter deux futurs présidents de la République, Georges Pompidou et notre confrère Léopold Senghor, vous accédez à la rue d'Ulm. Vous avez intégré, selon l'argot de l'école, au premier essai en 1933. Mais vous n'êtes reçu que deuxième de la promotion. Deuxième ? Quelle horreur ! Et pourquoi ? À cause d'une fâcheuse note à l'oral de grec. Singulier destin, décidément, que le vôtre. Il suggère ironiquement combien sont aléatoires ces examens et concours que vous nous demandez pourtant de révérer. Il est vrai que les moyennes finissent par établir une justice. Succès exceptionnel malgré tout. Les registres de l'école ne contenaient encore, depuis sa fondation en 1796, que les noms de 18 devancières, tant en sciences qu'en lettres. Les sciences rebutaient les filles, et le grec, toujours lui, dressait devant la section des lettres une barrière infranchissable à la plupart des talents féminins. 18, parmi lesquels la grande Simone Veil, qui vous précédait de 5 ans. Le succès aime à se présenter avec pudeur comme une chose toute naturelle, mais dans cette nature, il y a beaucoup d'art. L'art de travailler, l'art de concentrer et de ménager l'effort, l'art de vivre au sortir d'un lycée de filles en cagneuse perdue au milieu des cagneux. Vous savez le pratiquer, vous nourrissez avec et comme tous ces garçons des ambitions où masculinité et féminité n'ont point de part. Vous goûtez la distinction, que le grec fait mieux que le français, entre anère, l'homme viril, et anthropos, l'homme humain. Anthropos, homme, vous l'êtes comme eux, à part entière et sans complexe. À tous ces arts de la réussite, j'en ajouterai un autre, l'art d'aimer celle à qui vous devez tout. Votre mère a su surveiller sur vos efforts, sur votre santé, sur votre équilibre. En retour, quelle plus belle récompense lui offrir de tant de soins que de renouveler, à 30 ans de distance, l'entrée à la rue d'Ulm du père disparu. Il me semble pourtant que l'école, à part ses amitiés durables, ne vous a guère marqué. Vous y êtes externe. La vie de turne, et à plus forte raison de dortoir, est une vie de garçon. Une année dans une revue à la manière de Racine, on vous voit bien monter sur scène sous les traits de Cléopâtre. Mais vous participez peu au rite, plus ou moins délicat, du folklore normalien. Les rapports entre garçons et filles n'étaient pas ce qu'ils sont devenus. Vos camarades ne vous embrassaient pas et ne vous tutoyaient même pas. Moins encore se serait-il permis de flirter. Une découverte qui vous éblouit alors, celle de Thucydide, ne doit rien à l'école. C'est un hasard ménagé par la tendresse attentive de votre mère, encore une fois. Elle a déniché sur les quais un Thucydide joliment relié de parchemin. Elle vous en fait cadeau pour vos lectures de vacances. Thucydide est réputé ne pas se lire aussi facilement qu'un roman de gare. Mais cette édition vous aide, et les bilingues, grec-latin, cela vous suffit. Voilà donc Thucydide, compagnon de vacances. C'est une rencontre qui durera plus qu'un été. Agrégé en 1936, vous commencez comme boursière votre thèse sur Thucydide et l'impérialisme athénien. Vous vous enfouissez dans la guerre du Péloponnèse. En 1939, vous voici professeur à Bordeaux. Vous vous mariez au printemps de 1940, à quelques semaines du déchaînement de la Seconde Guerre, et comme vous êtes né, à quelques mois du déchaînement de la Première. Michel de Romilly ne contrarie pas votre passion pour le grec, il l'encourage même. La guerre a cessé d'être pour vous un simple sujet de thèse. D'abord, vous en vivez les épreuves au rythme de la nation, Marie sous les drapeaux, en juin l'exode. Vous voyez arriver à Bordeaux le gouvernement et le parlement de la République en déroute. Bientôt, une autre catastrophe vous atteint, aussi imprévue, plus intolérable encore que la première. À la fin de 1940, vous êtes suspendu, victime des lois racistes. Du jour au lendemain, vous voilà chassé de l'université, banni dans votre propre pays, étrangère chez vous, parce que votre père était juif. Les mots n'ont plus de sens. Vous étiez pupille de la nation, et la nation vous renie. Elle renie cette paternité de substitution qu'elle avait assumée. et elle renie précisément à cause de votre père véritable. Le service de la France, vous avez enlevé ce père, et voilà que l'on vous fait un crime de ce père au nom de la France. Parce que tant d'autres, poursuivis par la même injustice, ont souffert dans leur corps et leur âme plus que vous, vous avez dédaigné de vous plaindre. Il me faut pourtant le dire aujourd'hui devant vous, nous ressentons là un déshonneur que nous ne pouvons effacer dans notre conscience qu'en ne l'effaçant pas de notre mémoire. Je n'ai pas le souvenir, rassurez-vous, d'une brusque catastrophe. Nous n'étions pas seuls touchés d'abord. La condition humaine est inséparable de l'espoir. Il ne vous quitta jamais, et vous ne l'avez jamais dissocié de l'espoir français. Pour entretenir votre courage, vous n'aviez pas seulement la radio de Londres, vous écoutiez aussi les messages parvenus d'un émetteur plus lointain, Thucydide, cette étoile éteinte dont la lumière ne cesse de vous éclairer. Il y a des thèses qui inventent leur sujet. On n'invente pas Thucydide. Il y a des thèses qui réhabilitent un personnage. Thucydide n'avait nul besoin d'être réhabilité. Mais il était un monument qu'on admirait de loin. Vous nous l'avez rendu plus intelligible et plus proche. Thucydide a su être le témoin du monde à travers un moment privilégié de l'histoire du monde. Il a pensé pouvoir en tirer des leçons universelles. S'il vous a retenu dès 1936, s'il vous a soutenu après 1940, c'est parce que ses leçons conservaient une pertinence immortelle. Le découvrir, ce fut votre grande œuvre, qui culminera en 1947, année où vous publierez votre thèse, et se poursuivra par d'autres ouvrages, comme l'édition et la traduction de Thucydide dans la collection des universités de France Guillaume Budé, sans oublier l'introduction à l'édition de la Pléiade. Thucydide, jeune et riche aristocrate, est dans la position où se retrouvera Alexis de Tocqueville. Issu de l'ancienne société, emporté dans un tourbillon, fasciné par ce fait nouveau, la démocratie, qui crée peu à peu une nouvelle société. La démocratie, c'est un état d'esprit. On estime que la participation des petites gens, artisans, petits propriétaires, favorise l'essor général. Tant pis si les riches, si les vieilles familles sont lésées dans leurs privilèges. Thucydide admire l'efficacité d'un régime qui a fait d'Athènes la plus puissante des cités grecques et qui laisse libre cours aux ambitions des citoyens. Il en mesure aussi le risque. Il éprouvera la fragilité de la frontière entre démocratie et démagogie. Comme tout cela sonne vrai, sonne moderne. Mais bientôt, cette réalité brillante s'écroule au cours d'un de ces conflits les plus sinistres qui ait jamais brisé les espérances des hommes. Pourquoi ? Comment ? Ces deux questions qui résument l'aventure humaine, Thucydide les applique à ce désastre. Ni les dieux, ni le destin ne sont plus une réponse. Homère est loin. Le récit ne suffit plus. Hérodote doit s'éloigner. Thucydide se veut le froid logicien des événements qu'il rapporte. Cette guerre du Péloponnèse, c'est la guerre toujours recommencée de l'ordre qui se fossilise contre le mouvement qui se ferait une voix. La méthode de Thucydide vous fascine. C'est qu'elle intéresse notre idée de l'histoire et de l'homme même. Thucydide se tient à l'écart autant de l'histoire idéologique que de l'histoire anecdotique. Celle qui n'est pas assez humaine et celle qui ne l'est que trop. L'histoire idéologique pervertit les faits et prend parti en face d'eux. L'histoire anecdotique en reste platement aux faits. Avec sa manière d'exposer le fait pour l'analyser, Thucydide a inventé une historiographie moderne. Il conduit son lecteur à penser que l'histoire est de nature à être non seulement apprise, mais comprise. Elle a une signification, elle est utile à l'homme public, puisqu'elle enseigne à raisonner sur les événements. Cette intuition était appelée à un immense avenir, comme aux pires perversions. L'histoire, si elle est correctement interprétée, est source de leçons, mais gare au pauvre peuple si leur dirigeant se trompe de sens. L'histoire de Thucydide surprend le lecteur habitué aux états d'âme de la littérature antique et de la conscience moderne. Avec quelle froideur voulue il décrit ce que nous nommons crime contre l'humanité. Thucydide ne fait pas la morale. Un moraliste n'a jamais empêché un massacre. Il est logicien des faits. Il sait en exposer le mécanisme. À terme, la lucidité du logicien est plus efficace que les émotions du moraliste, parce qu'elle nous ramène aux causes. On a opposé l'étroitesse du sujet de Thucydide et la prétention de ses conclusions. Mauvais procès. À travers sa guerre, Thucydide a examiné toutes les guerres et leurs causes. C'est pourquoi vous le répétez à l'envi, chaque guerre suscite des lecteurs que stupéfie l'actualité de Thucydide. Il a su établir les permanences humaines. Il est dans votre nature, comme dans celle de Thucydide, de contempler en même temps une chose et son contraire. Votre méthode, en quelque sorte dialectique, vous permet d'affiner votre analyse. Même si vous avez réuni les éléments d'une certitude, vous laissez à votre disciple ou lecteur le soin de la déduire seul. Vous n'aimez pas dire d'emblée « oui », vous préférez « oui mais », réflexe de chercheur qui veut se ménager de larges horizons, réflexe de professeur moins soucieux d'imposer que d'incliner à la réflexion personnelle. « Oui mais » ouvre la porte à des explorations nouvelles. Cet avatar du doute méthodique respecte la liberté de l'autre. « Oui, ce peut être la foi ». Mais ce peut être une forme d'asservissement. Oui, mais c'est l'intelligence à l'offensive. Vous aimez en observer la progression chez vous autant que chez les autres. La conviction, on la prêche par l'exemple. Or, y a-t-il meilleur exemple pour simuler une intelligence tierce que d'esquisser devant elle, sans forcer le trait, le cheminement qu'on s'efforce de suivre? Lui offrir un éventail d'arguments qui sont une manière différente d'aborder le problème. Multipliez d'autant vos chances de la persuader. Évitez de la heurter par un ton péremptoire qui fleurerait le dogmatisme. Une pareille démarche intellectuelle dans sa subtilité, dans sa variété, est-elle chez vous innée ou acquise? Votre métier aura sans doute développé une disposition de votre tempérament qui vous interdisait de rien admettre sans examen. Choisir, non subir. Le seul moyen d'enrayer l'avènement de l'homme-robot que tous les totalitarismes ont cultivé. L'homme-robot, c'est le Perse prosterné devant le grand roi. Le jeune homme séduit et réduit par la dialectique des sophistes. Le citoyen qui succombe à une mode intellectuelle et qui suit le mouvement grégaire de ses pareils. Seule la liberté personnelle d'appréciation peut faire avorter l'homme-robot en puissance chez chaque victime de ce vacarme qu'on baptise tour à tour vie publique, information, évolution des mœurs. Thucydide vous a installé au cœur d'un drame de notre temps. Pour qu'un pays vive libre, il ne suffit pas qu'il soit doté d'institutions démocratiques, encore faut-il que ses citoyens aient la volonté d'être démocrates. En d'autres termes, qu'ils sachent dire « oui mais » à bon escient. Pour échapper au destin d'homme-robot, lisons et relisons après vous Thucydide. Vous ne vous êtes pas enfermée, madame, dans Thucydide. Je ne veux pas vous y enfermer davantage. Au-delà de lui, quels furent votre enseignement, votre recherche, votre méthode, votre vision de la culture et de l'éducation, votre corps de doctrine? Si le tête-à-tête avec Thucydide vous a réconforté dans les épreuves de l'occupation, il est temps de dire que, pour vous, l'une de ces épreuves fut d'être contrainte à ce seul tête-à-tête, d'être privé du cœur à cœur de l'enseignant. « Y a-t-il une voie plus grande que de faire comprendre aux autres ce que l'on aime » dites-vous. Cette joie dont vous avez été sevré pendant 4 ans, vous la retrouvez intacte à la Libération. En 1945, vous voici à Versailles, professeur de Cagne. La Cagne, c'est le miroir à 1000 faces de l'intelligence juvénile. Pour vous, c'était, vous l'avez avoué, le paradis. Mais vous ne croyez pas que la joie d'enseigner soit un privilège des milieux scolaires brillants. Qu'il s'agisse d'enfants tout jeunes ou d'étudiants déjà expérimentés, vous avez toujours une foi éperdue pour votre métier malgré ses vicissitudes. Votre foi n'est pas aveugle. Vous analysez lucidement ce qui fut le grand mobile de votre vie. Un professeur a, pendant qu'il parle, l'âge de ses élèves ou de ses étudiants. C'est un coup qui s'attrape, dites-vous, de cette étonnante métamorphose. Vous avez des dons d'acteur et vous venez de nous en donner une nouvelle preuve. Vous disiez un jour que le professeur avait un côté comédien. Pourquoi ? Parce que tout enseignement impose de capter l'écoute, de surprendre, d'amuser pour instruire. Suprême élégance, vous faites et vous aimez faire sourire à vos dépens. Un jour, vous racontez comment vous êtes tombé dans les pièges du grec moderne. Vous roulez sur une route de Chios au volant de votre voiture. Un pop orthodoxe vous demande de le prendre en autostop. Vous objectez l'insuffisance de l'assurance de l'auto, Asphalia. Le pop indigné vous répond qu'en sa compagnie, vous êtes en toute sécurité, Asphalia, et que votre vertu ne court aucun risque avec lui. Vous ne détestez pas de vous servir des cartes de visite qu'un confrère malicieux a fait graver pour vous. Jacqueline de Romilly, collégienne de France, institutrice de France. Je ne suis pas sûr que vous approuviez des pratiques d'outre-Atlantique qui confient aux étudiants le soin d'évaluer leurs professeurs. Mais je suis certain que vous n'eussiez rien eu à craindre de ces systèmes. Le plaisir d'enseigner est communicatif. Comme vous l'avez dit pour le public ébloui d'André Roussin, vos élèves et vos étudiants radieux vous remercient du regard. Aujourd'hui, dispersés dans les lycées, les universités ou à l'étranger, ils vous restent attachés. Quand votre élection parmi nous fut connue, vous reçûtes des milliers de lettres de disciples que vous aviez perdu de vue et qui saisissaient cette occasion de vous dire tout simplement leur joie, leur gratitude. Cela compense les inévitables désillusions. Vous avez 100 histoires à raconter. Par exemple, au terme d'un de ses cours au Collège de France sur le tragique grec, où l'on vous a vu démonter les rouages des 10 proies en commentant l'un par l'autre Échille, Sophocle, Euripide, avec votre habituel brio, un auditeur du premier rang vient vous trouver, vous congratule et vous demande « Mais pourquoi Oreste n'est-il pas venu secourir Antigone ?» Et une auditrice « C'était passionnant, Socrate !» Il écrivait bien des tragédies. Culture, barbarie, voilà de grands mots qui viennent sous votre plume. C'est que l'amour de l'enseignement est devenu chez vous plus inquiet, plus jaloux. Et vous voici lancé dans une bataille. Cette bataille vous a rendu célèbre. Le double prix de version latine et grecque avait fait de vous la vedette d'un jour. Un simple accident de chemin de fer vous avait, dès le lendemain, remplacé à la une. Thucydide, vos recherches, votre enseignement, vous ont acquis l'affection des étudiants, le respect des collègues, le bonnet des doctorats honoris causa, l'entrée dans 9 académies, facilitée par votre parfaite maîtrise de l'anglais. Bref, l'admiration d'un public exigeant. Mais pas cette célébrité médiatique que votre combat pour votre idée de l'école vous a acquise. Avouons-le, la Sorbonne en 1957, le Collège de France en 1973, où vous fûtes la première femme à professer, l'Académie des inscriptions en 1975, première aussi à y entrer, sanctionne votre réputation dans le monde intellectuel. Mais par votre combat pour l'école, vous avez atteint une foule immense et secrète. Vous, que nous connaissons si naturellement pleine d'ironie tendre. Là, vous ne plaisantez plus, vous vous mettez en colère. Vous prenez le ton de Démosthène. Ce n'est plus l'exposé clinique des faits à la Thucydide. C'est la philippique. Jamais chez vous, la sérénité n'a été la compagne de la résignation, ni l'humour n'a altéré la gravité. Tout de même, pour vous faire passer des chairs aux estrades, pour vous jeter dans le train ou l'avion en vue d'autres réunions que de savants symposiums, il a fallu que la cause en valût la peine. Elle en vaut la peine. Il s'agit de nos enfants. Les enfants, ça s'élève. Il faut leur apporter, dites-vous, ce qu'ils ne peuvent ni inventer, ni désirer apprendre, mais sans quoi ils ne pourront rien faire. Le goût de l'effort, l'appétit de culture. Ce n'est pas sans expérience que vous parlez de ce sujet. De l'enseignement, vous avez connu presque tous les niveaux. Vous parlez du paradis, de l'enseignement, mais vous savez bien que tous les élèves ne sont pas des anges. Visage fermé ou nigaud, sournois ou arrogant, les petits d'hommes ont déjà des tares et des vertus d'adultes. La foi et le talent du maître devraient lui permettre de dominer la situation. Pourquoi, trop souvent, n'est-ce plus le cas? Parce que, vous en êtes convaincu, les relations entre le maître et ses élèves sont ruinées par des difficultés extérieures au cours. Difficultés matérielles, évidemment. Oui, on enseigne mieux devant un public bien installé dans une salle avenante. Trop de maîtres souffrent d'un manque de moyens. Quelle idée un professeur peut-il conserver de sa propre efficacité quand il s'entend poser cette humiliante question « Êtes-vous bien placé pour parler d'orientation professionnelle ? Vous gagnez si peu. » Vous le dites sans embâge, il y a une affaire de gros sous. Mais vous mettez le doigt sur d'autres difficultés de nature idéologique. La France raffole de guerre de religion. La loi de la République voulait que l'école en fût préservée. Hélas, les professeurs furent les vecteurs enthousiastes de l'idéologie qui allait détruire leur autorité. Jetez-vous un regard dans un lycée moderne. Les chahuts, les violences sont légion. Le professeur, dans un monde où l'on a délibérément banni le respect et l'ordre, n'a plus qu'à fermer les yeux. Délibérément ? L'adverbe accuse. S'agit-il d'un complot ? Jaurès disait déjà à propos de l'école « La fausse monnaie chasse la bonne » et Barrès annonçait dès 1921 aux instituteurs « Vous contestez ? Eh bien, vous serez contesté. » Vous montrez que l'attitude des élèves est aussi décisive que la qualité des maîtres. Liberté et responsabilité, cela se conjugue, selon vous, avec ordre et respect mutuel. Or, les rapports des maîtres et étudiants, aujourd'hui, sont trop souvent devenus ceux d'assistants à assister. La culture est toujours une démarche personnelle. Vous auriez, nous aurions détesté hier d'être encadrés, comme on dit aujourd'hui. Maintenant, l'encadrement est partout. Les étudiants s'enferment dans des structures et autres coordinations, seules habilitées à parler en leur nom. Ou alors, ils recherchent auprès d'un maître des directives équivoques qui tournent, comme vous le dites si bien, à l'emprise illégitime. Vous n'avez jamais cru que pour être près des étudiants, il fallait se faire tribun ou chef scout. Nous autres professeurs, en 1969, et l'enseignement en détresse, en 1984, furent ses livres de combat. Dans une bataille, il convient de frapper l'adversaire, et le plus fort possible. Pourtant, puisque nous sommes ici en bonne compagnie, dans un instant de répit entre les escarmouches, il ne nous est pas interdit de prendre un peu de recul. Comment transmettre cette culture qui est nôtre, non plus aux 300 000 collégiens et lycéens de 1939, mais aux 5 millions de 1989, 16 fois plus. Jusque dans les années 50, il y avait une sorte d'harmonie des proportions entre la culture et l'enseignement secondaire ou universitaire. La haute culture n'était pas toute dans l'enseignement, certes. L'enseignement n'étaient pas seulement de haute culture, mais enfin, entre l'une et l'autre, les liens restaient intimes. L'explosion, non pas démographique, hélas, comme certains le croient encore naïvement, mais démocratique, de l'enseignement secondaire ou supérieur, a tout bouleversé. Il a fallu s'adresser à des élèves qui, dans leur immense majorité, n'avaient dans leur famille aucune tradition universitaire. Il a fallu recruter des maîtres en masse. Ces nouveaux professeurs ont constitué parfois des maillons plus faibles, alors qu'on aurait eu besoin d'une chaîne plus forte. L'organisation centralisée de l'école n'a pas permis de traiter le problème avec assez de diversité dans l'initiative, dans l'adaptation au public, dans l'exécution. Bref, les barbares sont à l'œuvre, assurément. Mais les hommes de culture ne se sont-ils pas trop reposés sur leur laurier, endormis dans leur coutume? Peut-être n'avons-nous pas été assez athéniens, hommes du grand large et de l'aventure. Cette vaste question de la transmission de la culture vous est souvent posée par un détour un peu simplet. À quoi ça sert le grec? Votre discipline aimée vous expose en effet plus qu'une autre à l'interrogation. Vous ne vous contentez pas de répondre comme le Cyrano d'Edmond Rostand, encore un de nos confrères amoureux du grec, « C'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » 100 fois vous avez expliqué « Aucune connaissance non technique ne sert jamais de façon directe. » À quoi servent pratiquement la lecture de Shakespeare, la réflexion sur Kant, l'étude de l'unité italienne? À rien. Pourtant, que serions-nous sans elle? Et quelques autres? L'ingénieur, dites-vous, se sert-il tant des parallélépipèdes ou des équations qui peuplaient ses cahiers d'élèves? Non. A-t-il perdu son temps? Il a appris à raisonner, de même avec le grec. Mais si le grec était aussi inutile que le reste, serait-ce suffisant pour choisir de faire travailler les élèves sur cette inutilité-là? Pourquoi ne pas le remplacer par l'apprentissage du jeu d'échecs? Vous avez d'autres réponses. Pour l'intelligence, pas de plus bel exercice que l'étude du grec. Ce sont les poids et haltères de l'intelligence. L'apprentissage de la langue grecque, dites-vous, apprend d'abord à raisonner. Aucune confusion ne pardonne. Un instant d'étourderie et le piré devient un homme. Le professeur les aime, ces embûches, non par sadisme. Chaque faute sanctionne un manque de jugement et devient une éclatante leçon de rigueur. Chaque mot cache une idée. Le grec permet de mieux se comprendre, d'éviter les formules toutes faites d'une langue de bois, de réduire les malentendus. Était-ce un hasard si les deux dames que nous avons élues pour la fermeté de leur style et la qualité de leur esprit étaient toutes deux hellénisantes? D'autre part, l'étude du grec, en rompant des routines, dépayse avant de ramener au pays, désoriente avant de donner une plus juste orientation. C'est un aller-retour incessant entre le même et l'autre. Une phrase de Lysias vous a révélé la permanence de l'exclusion. Les lois discriminatoires de 1940 étaient préfigurées par le traitement imposé aux étrangers domiciliés à Athènes en 404. Quand nous nous interrogeons sur le tragique de la vie, sur le rôle des sciences dans l'éducation, sur les maux de l'impérialisme, nous découvrons que nos problèmes étaient déjà les problèmes des Grecs. Et si l'on ignore tout des mythes et légendes qui ont inspiré les arts et lettres depuis 25 siècles, comment comprendre les chefs-d'œuvre des musées, du théâtre, de la littérature et notre monde moderne qui en est issu? Comment cueillir les fleurs françaises si on ne prend soin de cultiver les racines grecques et latines? À tous vos arguments sur le rayonnement du grec, puis j'en ajoutai 4 autres qui, il est vrai, ne concernent pas son enseignement. Depuis 3500 ans au moins, le grec est resté une langue vivante qu'on parlait déjà plusieurs siècles avant Homère, à Mycène du temps d'Agamemnon, à Ithaque du temps d'Ulysse. C'est le grec qui a permis de faire connaître au monde le message de la Bible. Si les 70 traducteurs d'Alexandrie n'avaient pas entrepris au IIIe siècle avant notre ère la Septante, cette traduction de l'Ancien Testament dans ce qui était la seule langue universelle, la Bible fut restée cantonnée à l'usage d'un petit peuple presque inconnu et dont même Hérodote, ce grand voyageur, ne faisait pas mention. C'est le grec, à nouveau, dans les premiers siècles de notre ère, qui a aussitôt donné leur portée universelle aux quatre évangiles et aux pères de l'Église. C'est enfin le grec qui est resté pendant 1000 ans la langue de la si brillante civilisation byzantine après que l'Empire romain fut tombé sous le coup des barbares. Quelle langue a jamais fait mieux pour assurer la diffusion d'un message et le faire entrer dans le patrimoine de l'humanité? À vrai dire, il est devenu presque inutile d'entreprendre la défense et l'illustration des Grecs. Depuis Nietzsche, on sait que le grec est celui qui, jusqu'à présent, a mené l'homme le plus loin. La question que vous posez, ou que l'on peut poser à travers votre destin, est plus étroite, mais plus actuelle. Le grec doit-il garder sa place dans notre enseignement français, dans notre tradition culturelle? Cette place, reconnaissons-le, est une conquête récente. Elle ne se compare nullement à celle qu'a toujours occupée le latin. Vivant ou mort, le latin n'a jamais été pour nous une langue étrangère. Il est la matrice de notre tradition linguistique et culturelle. Le grec, il a fallu le redécouvrir dans un grand mouvement humaniste. Du XVe au XVIIIe siècle encore, ses praticiens sont restés fort rares. On ne le connaissait guère que par des traductions. Si Rabelais propose de l'inscrire dans son boulimique plan d'études, c'est au même rang que la langue hébraïque et la chaldaïque. Les jésuites ne l'avaient jamais fait figurer dans leur collège. C'est peut-être pour cela qu'à Port-Royal, M. Hamon l'enseigna à quelques-uns, dont Racine, pour notre bonheur. Le culte du grec, tel que nous l'avons célébré dans nos sections classiques, est une invention du XIXe siècle, culte dont la rue d'Ulm fut à la fois le temple et le séminaire. C'est elle qui, avec les Burnoufs, les Baillis, les Bérards, les Rénacs, à côté des Masons et des Chantraines, a si durablement marié le grec et le latin avec le français et multiplié les professeurs qui pouvaient, savaient et aimaient les enseigner ensemble. Nous avons découvert l'amour du grec, le vrai, celui dont on ne se moque pas, en même temps que le parlement, la bourse, le chemin de fer et la plupart des sciences modernes. Aujourd'hui, collégiens et lycéens peuvent étudier le latin sans le grec et le grec sans le latin. Cette dichotomie est étrange. Les études grecques ont pourtant gardé un public. En pourcentage, on pourrait aujourd'hui dire, en part de marché, ce public paraît ridicule. 1,6% d'hellénistes en seconde à la rentrée de 1989 contre 8,7% en 1949. Mais en chiffre absolu, il est plus du double du nombre d'hellénistes des secondes d'il y a 40 ans, 6542 contre 3102. Quant à la qualité, je vous laisse juger. En tout cas, cette place telle qu'elle est aujourd'hui, il importe au moins de la maintenir pour garder au cœur de la formation culturelle un ferment précieux. La Grèce et la formation de la pensée morale et politique, tel est le titre de la chaire que vous avez occupée au Collège de France à partir de 1973. Cette formation est un surgissement à nul autre pareil. Vous voulez l'observer comme l'ont vécu ceux qui en ont été les acteurs. Ce qui vous intéresse le plus, c'est la naissance et la connaissance des idées. Et ce qui fait la grande originalité de votre méthode, c'est sans doute votre don de percevoir le mouvement d'une pensée collective. Vous saisissez les idées dans leur développement, vous suivez leur essor et leur épanouissement, d'Homère à Aristote, en passant par les tragiques, chacun corrigeant et précisant la pensée antérieure. vous retrouvez jusque dans notre pensée contemporaine le prolongement de cette pensée antique. Vous vous attachez aussi à mettre en évidence l'invention et la formation progressive des grands concepts moraux et politiques, innovation par excellence des Grecs. L'idée de loi, en 1971, la réflexion sur la démocratie, en 1975, la douceur, qu'on pourrait appeler aussi tolérance, en 1979, la psychologie, en 1989, et enfin, la liberté. Comment l'idée de la liberté a-t-elle pu surgir au cœur d'une société qui considère l'esclavage à la fois comme la plus grande menace venant de l'extérieur et comme une nécessité économique à l'intérieur? La liberté grecque, vous en suivez l'éclosion en dialogue continu avec les auteurs. Vous révélez ainsi dans un cheminement rigoureux l'extraordinaire dynamisme de la culture grecque et en particulier athénienne. Pour nous faire partager vos trouvailles, vous utilisez la technique du roman policier. Tout devient énigme. Un secret en commande un autre. Votre lecteur progresse pas à pas dans le labyrinthe où vous lui tendez un fil. Avant Athènes, la liberté n'existait pas. Vous montrez comment, en moins d'un siècle, elle est expérimentée en vraie grandeur, avec ses défauts et ses contradictions, comment elle est proclamée au théâtre, discutée par Platon et Aristote, comment elle est vécue. Vous suivez année après année ses progrès que vous jalonnez de textes éclatants. Elle ne vous lâchera plus. Elle nous a fait ce que nous sommes. Déjà, elle s'allie à la démocratie. La jeunesse de Leipzig ou de Tiananmen se doute-t-elle qu'elle est disciple des philosophes et des tragiques grecs? Cette société n'était pas vraiment celle de nos droits de l'homme. Elle n'a pas reconnu à tous la liberté et l'égalité. Elle a toléré l'exclusion des femmes, des métèques et des esclaves. Mais elle a proclamé ce qui était un pas immense, l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Le citoyen refuse de se prosterner devant un maître. Les autres, les barbares, ne comprendront pas avant longtemps comment on peut obéir à autre chose qu'à un maître, à une règle qui requiert le respect de tous, même du maître. L'aventure de la liberté se conjugue avec l'histoire de la Grèce et plus particulièrement d'Athènes. Elle se fonde sur l'indépendance de la cité, elle s'enrichit dans la démocratie, pratique publique et quotidienne d'une société de citoyens. Elle suppose la bravoure, mais la générosité aussi. Une morale élevée est condition de la liberté. C'est pour avoir négligé la générosité qu'Athènes voit briser son essor et sombrer sa splendeur. Athènes n'a pas refusé de se battre comme une quelconque sybaris. Elle a ignoré que sa propre expansion devait s'arrêter à la liberté de ses voisins. Assimilant sa liberté qui la grise à la liberté, elle se comporte en impérialiste jusqu'à ce que les autres cités se liguent autour des Spartiates contre elle. Terriens conservateurs contre navigateurs aventureux, ils la réduisent à merci. L'aventure politique a tourné court. Seule l'aventure de l'esprit se poursuit. L'Athénien transfère la question de la liberté du domaine politique à celui de l'âme. On peut être asservi par un tyran ou par l'étranger, on peut être aussi esclave de ses passions. Dans les deux cas, la liberté se retrouve liée à l'effort sur soi. Les stoïciens en feront même une ascèse. Pourquoi cette histoire mouvementée et subtile nous intéresse-t-elle 25 siècles après? Les Grecs ont ouvert la voie des questions, à notre liberté de savoir y répondre. La liberté est la raison des Grecs, on peut y mordre à belles dents. Vous cherchez à mieux écouter ce que disent les Grecs à travers les mots qu'ils emploient pour le dire. Au-delà de vos auteurs préférés, c'est vous-même que nous entendons. Votre démarche est empreinte d'humilité. Votre rêve intime, n'est-ce pas que chacun d'entre nous, qui ne sommes pas aussi savants que vous, puisse inviter au banquet des auteurs grecs? À ce banquet, nul carton d'invitation n'est demandé, s'y asseoir, c'est participer à cette communauté spirituelle qu'Isocrate décrivait il y a 24 siècles comme la seule civilisation sous le ciel. Notre cité, disait-il, a si bien dispensé le reste de l'humanité pour la pensée et la parole que ses élèves sont devenus les maîtres des autres. Cette conviction d'Isocrate, maint texte chinois, au même moment et depuis lors, l'applique à l'empire du milieu. Combien d'autres peuples, depuis lors, en ont pensé autant d'eux-mêmes ? Mais c'était sans doute plus vrai du peuple grec que d'aucun autre, en tout cas pour nous, qui l'a formé. Amour de la sagesse, nous savons comment cela se dit en grec. Il me semble que votre philosophie comporte encore plus d'amour que de sagesse. On dirait même que, chez vous, la passion couve toujours sous la sérénité. Il est curieux que, malgré vos nombreux voyages en Grèce, le paysage grec soit absent de votre œuvre. Sans doute parce que vous avez découvert un paysage de remplacement. Une jeune fille avec autant de savoir, disait Sappho. Elle ajoutait, une jeune fille voyant la lumière du soleil, comment vivre en grec, sinon dans la lumière du soleil ? Cette lumière, vous l'avez retrouvée dans les collines boisées de votre Provence, sur cette montagne Sainte-Victoire qu'a immortalisé Cézanne. Vous avez décrit ces collines boisées dans ce que vous appelez votre seul ouvrage littéraire sur les chemins de Sainte-Victoire, pour lequel vous reçûtes le Grand Prix littéraire de Provence des mains d'André Roussin. Cher André Roussin, tandis que nous vous écoutions, madame, tout à l'heure, nous l'avons revue parmi nous, avec son sourire, sa gentillesse, son inépuisable bienveillance, qui n'était peut-être que le masque d'une inquiétude permanente. Mais vous avez fait mieux encore. En lui appliquant votre méthode d'analyse littéraire, vous nous avez aidé à dépasser l'image que nous nous faisions de lui. Plus d'un parmi nous se sera dit « je l'ai fréquenté et je ne l'avais pas vraiment connu. Je le découvre. » Telle est la vertu des textes quand on sait en faire, comme vous, une explication profonde et sensible. Paradoxalement, la Provence tient plus de place chez vous, qui n'êtes pas provençal, que chez lui qui l'était. Dans votre Sainte Victoire, vous chantez l'éblouissement de la lumière et la fraîcheur du vent que vous avez adoré. Le mot n'est pas excessif, car il y a en vous, comme chez les Grecs, une sorte de panthéisme, une part d'irrationnel qui ouvre la porte au sacré. Vous trouvez, tel hanté, un regain de force au contact de notre mère, la Terre. La découverte d'un trèfle à quatre feuilles vous plonge dans une joie profonde, me disiez-vous un jour. Vous allez vers votre montagne comme un pèlerin vers un sanctuaire. Vous adressez au rocher un hymne apollinien. N'en disons pas plus. Vous ne vous êtes jamais prise au sérieux. Lors l'œil malicieux, vous détaillez prosaïquement les délices des vacances. J'aime aussi, comme nous tous, la douceur de l'oisiveté, les bons repas, le vin rouge, intense et réchauffant. Naturellement, écrivez-vous, il est commode de s'attacher à une montagne. Elle ne vous fait jamais faux bond. Cela repose des attachements humains. Pourtant, cet été, la montagne vous a fait faux bond, ou plutôt l'homme encore. Son imprudence, sinon sa malveillance. Tout s'est embrasé, et voilà, d'un coup, votre Éden dévasté. Rien ne subsiste de cette merveille de paysage où vous aviez vos repères, vos secrets de jeunesse. Le barbare a été le plus fort. Mais que peut le barbare contre les maux qui nous ont légué notre civilisation, la démocratie, le goût des droits de l'homme, la liberté. Ces mots, même la bibliothèque d'Alexandrie ne les a pas ensevelis dans ses cendres. Ils sont autant de phénix les mots lourds de sens, légers de nuances, doués de beauté, exaltés l'un par l'autre, chatoyants porteurs de questions, les mots divins des hommes. « Vous, les Grecs, disait Xénophon à ses soldats, vous ne vous prosternez devant aucun homme comme devant un maître. Vous n'adorez que les dieux seuls. » Ces dieux qui étaient leur création et dont ils aimaient sourire tout en les révérant. Ah, quels hommes, ces Grecs ! Xénophon concluait ainsi sa harangue, « Voilà les ancêtres dont vous êtes les fils. » Oui, madame, nous disons après lui, heureux que nous sommes de vous accueillir dans notre compagnie, voilà les ancêtres dont vous êtes la fille.
Le texte de ce discours d'Alain Perfitte, accueillant Jacqueline de Romilly sous la coupole, peut être lu dans son intégralité sur le site de l'Académie française, académie-française.fr, en cliquant sur les travaux académiques d'Alain Perfitte. Canal Académie, de son côté, vous propose une quinzaine d'émissions avec Jacqueline de Romilly ou autour de plusieurs de ses livres. En tapant son nom dans notre moteur de recherche, vous pourrez rester en compagnie de cette grande helléniste qui nous a quittés le 18 décembre 2010 pour rejoindre, en immortelle qu'elle était déjà, les dieux de l'Olympe qu'elle a tant servis.